Bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre série 3 en 1, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et plus particulièrement notre thème aujourd'hui, la deuxième partie d'un message que j'ai commencé, qui est déjà en ligne, qui s'intitule « L'Église selon Jésus ». Et aujourd'hui, un thème, le thème d'un message pastoral prophétique. Comme pasteur de l'Église Nouvelle Vie, je crois qu'il y a une teneur prophétique annonciatrice des choses à venir dans le message d'aujourd'hui, l'Église selon Jésus, dans un contexte particulier parce que nous sommes encore la semaine de notre 28e anniversaire de Nouvelle Vie. Il y a 28 ans, presque jour pour jour, la vision était lancée. On se retrouve aujourd'hui avec un sens d'annoncer la prochaine étape de la vision et les fondements de notre vision pour l'Église. Église Nouvelle Vie, en implantation d'église, une église en multisite, sur plusieurs sites et avec une vision que Dieu a mis dans mon cœur, dans nos cœurs, pour atteindre, pour avoir 10 000 chrétiens de Nouvelle Vie, dans des églises Nouvelle Vie, dans la prochaine décennie. Et on a regardé ensemble aux trois fondements de notre vision de l'Église selon Jésus. Dans le message précédent, le fondement numéro un, c'est que c'est Jésus qui bâtit son Église. Matthieu 16, 13 à 18, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Alors, c'est ce que Jésus fait, c'est ce qu'on a vécu depuis 28 ans à travers vents et marées, quel que soit ce qui peut venir contre l'Église, Jésus bâtit son Église et c'est aussi ce que Dieu a mis sur nos cœurs et c'est ce que nous croyons que nous allons vivre dans la prochaine étape de cette vision, mais maintenant, non seulement localement, mais à travers la province de Québec, Jésus bâtit son Église, je bâtirai mon Église. Jésus bénit son Église. Matthieu 16, 19, il l'a béni en lui donnant des clés. Je vous donnerai des clés, les clés du royaume de Dieu. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Et ces clés que Jésus donne, nous a données et que nous devons continuer à poursuivre, renouveler avec des clés du trésor ancien, les choses qui sont immuables, mais aussi des clés du trésor nouveau, des choses nouvelles, comme cette vision vers le multisite que le Seigneur met sur notre cœur. Avec les clés que Dieu donne, ces clés font de l'Église une force qui est inarrêtable. L'Église ne peut pas être arrêtée. Elle est invincible, elle est indestructible. L'Église de Dieu est immense, elle est immense dans son impact et dans son influence, mais elle est aussi infiniment intime et personnelle. C'est une personne à la fois. Toucher des multitudes, une personne à la fois. À la Pentecôte, des milliers sont convertis, mais des flammes de feu se posaient sur chacun d'eux. Alors Jésus bâtit son Église, bénit son Église avec les clés qu'il nous donne. Et Jésus, on l'a vu dans le dernier message, doit bannir. Il y a des choses qu'il doit bannir de son Église. À Pierre qui vient de recevoir la révélation dans Matthieu 16, révélation qui venait du Père, il le met en garde contre les pensées que tu viens d'exprimer ne sont pas de Dieu, mais sont celles des hommes. Depuis nos débuts et chaque jour, chaque année, depuis chaque jour, dans chaque saison de Nouvelle Vie depuis 28 ans, dans le jeûne, la prière, l'humilité, la recherche de Dieu, Dieu nous rappelle et nous ramène à cette réalité que les pensées de Dieu, du Dieu trois en un, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont les nôtres, qu'elles sont infiniment au-dessus des nôtres. C'est pourquoi nous avons continuellement besoin de poursuivre et de rechercher la volonté de Dieu. Et afin que Dieu puisse venir renverser nos pensées à nous, nos concepts à nous, nous n'avions aucune idée. Lorsqu'on a commencé une nouvelle vie, on pensait savoir ce qui était pour arriver, mais Dieu avait des choses tellement infiniment au-delà de nos pensées à nous. Alors, on a besoin de continuellement, encore une fois, continuer à bannir de nos pensées les limitations des dimensions humaines. Dieu veut renverser, déraciner les pensées qui ne sont pas de lui en nous, réduire, remplacer même nos pensées humaines d'incrédulité, d'impossibilité, de petitesse, de peur, par la révélation, ce n'est pas par la chair et le sang, c'est par mon Père qui est dans les cieux, par la révélation de ce que lui a préparé. En fait, Jésus veut révolutionner. Jésus révolutionne les balises de son Église. Il bâtit son Église, bénit son Église, bannit de son Église et il révolutionne les balises de son Église. De Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, à la résurrection, Jésus donne son mandat dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Le mot parle d'adoration. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Vous êtes venus pour m'adorer, mais maintenant allez pour annoncer. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Dieu trois en un, au nom de Dieu le Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Notre vision pour la prochaine décennie, 10 000 chrétiens, nouvelle vie aux quatre coins du Québec, dans des églises en multisites. Pourquoi? Parce que la montagne à laquelle Jésus nous appelle en est une d'adoration à ses pieds, oui, mais ne peut jamais s'arrêter là. Nous devons aussi aller, nous devons annoncer et nous devons atteindre ce monde par son pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. L'Église n'a jamais été appelée à être limité, à produire de la musique ou du matériel en ligne que chacun regarde chacun chez soi et qui est visionné par des chrétiens, par 99% par des chrétiens, sans établir des églises, faire des disciples au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, si vous vous approchez de Dieu, si vous laissez Jésus et son cœur pour la moisson, pour les âmes, s'approcher de vous. La Bible nous dit que Jésus s'étant approché d'eux avec tous leurs doutes. Et si vous laissez Jésus s'approcher de vous, tous vos doutes, tous vos concepts de déconstruction de ce qu'est l'Église vont devoir entendre la voix de Jésus. S'approchant d'eux, il leur parla et leur dit, « Je veux révolutionner tes balises, les balises de ce que tu penses qu'est l'Église. Et mon pouvoir est afin, pas que tu restes sur la montagne à adorer seulement, mais afin que tu puisses aller. » Et on retrouve cette même notion dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Là, Christ ressuscité, il les appelle, révolutionne les balises de son Église. Actes 1, 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Baptisés, vous serez immergés, remplis, équipés, fortifiés, renouvelés, par le pouvoir, la dynamique spirituelle du Saint-Esprit, non pas pour attendre en permanence, c'était pour commencer à Jérusalem, mais pas pour attendre en permanence. La mentalité encore aujourd'hui de réveil, qu'on baigne, on basque dans la gloire de Dieu en attendant le réveil. Non, non, mais pour atteindre, annoncer et accomplir avec puissance ce qui les appelle à aller vers le monde, vers les nations, comme nous avons lu dans Matthieu 28. Il les appelle à toucher le monde, mais ils veulent connaître la date de la fin du monde. Il y a des choses qui ne changent pas trop, parce que le verset suivant, verset 6 à 8 d'acte 1. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Et plusieurs se le demandent encore. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, un dunamis, une dynamique, un dynamo, une impulsion, une propulsion spirituelle, une force proportionnelle plus grande que n'importe quoi qui vient contre vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui va survenir sur vous, et alors vous allez être mes témoins, mes martus, ceux qui se tiennent envers et contre tous pour communiquer le message, oui à Jérusalem, mais il faut élargir les balises, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez encore le 3 en 1 qui est là, le Seigneur Jésus qui appelle, le Père qui fixe les temps avec son autorité et le Saint-Esprit qui nous active et qui nous donne accès à la puissance pour accomplir. Jésus révolutionne les balises de son Église parce qu'il y a ces trois étapes importantes pour nous, même pour nous, dans notre stratégie Nouvelle Vie. À Jérusalem, où l'œuvre a débuté, où la Pentecôte va prendre place, où il va déverser son esprit, l'Église va naître. À notre Jérusalem, notre Longueuil dans notre cas, dans la Judée et la Samarie, notre nation, la province de Québec, et jusqu'aux extrémités de la terre, la francophonie. La notion de Jérusalem en premier est biblique, la notion d'église locale. Mais il faut faire extrêmement attention parce que le concept biblique de l'église locale peut devenir contaminé par le virus du légalisme, de la petitesse et même de la manipulation spirituelle. Il faut absolument que tu aies, avec une vision réductrice, tu dois rester dans ta ville, l'église locale seulement, seulement nous, toujours tourné sur nous. 30 ans plus tard, on est encore seulement tourné sur nous. Et c'est intéressant qu'il est aussi possible, à l'autre extrême du spectre, aussi possible de devenir tellement extrémité de la terre que tu as perdu la vision du Seigneur pour ta ville et pour ta nation. Et j'ai jamais vu cette tentation, j'ai jamais vu ce piège aussi, cette tendance aussi présente qu'en ce moment. Parce qu'en sortant en ce moment avec les médias sociaux et avec l'Église en ligne, j'entends des voix pastorales qui disent « Maintenant, ma vraie Église, c'est en ligne. C'est les gens aux extrémités de la terre, sans vision pour le local et pour le national. Nous avons besoin, comme Église Nouvelle Vie, d'avoir cette notion de nous allons développer, continuer à développer localement, à Longueuil, à Jérusalem, mais aussi dans notre Judée, dans la province de Québec, en implantant des églises. Ce qui est fascinant, c'est à quel point Dieu a dû travailler leur cœur. Parce qu'il les a appelés aux nations, à la Judée, Samarie, extrémité de la terre. Mais de acte 1 jusqu'à acte 10, l'église, elle est méga à Jérusalem, mais elle reste, elle atteint seulement une catégorie de personnes. Elle atteint seulement des Juifs à l'époque. Acte 2, première église de Pentecôte de Jérusalem, première église Nouvelle Vie de Jérusalem, 3000, acte 2, 3000 personnes, 3000 hommes à part les femmes et les enfants. Acte 4, 5000 hommes à part les femmes et les enfants. Il y a tous une méga église, mais ils ne vont pas vers les nations. Ils ne vont pas jusqu'à acte 10. Il n'y a même pas personne qui communique l'évangile aux non-juifs. Ils la gardaient exclusivement pour eux-mêmes. Acte 10, 9 et 19 à 21, on a un moment où l'apôtre Pierre est en prière et le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, c'était la 6e heure, midi, pour prier. Et comme il était à réfléchir sur le sens de la vision, Dieu lui donne une vision où tous ses paradigmes, toutes ses balises sont renversées. Ce qu'il considérait comme impur, tous les non-juifs, l'ouverture spirituelle se fait. Et pendant qu'il réfléchit à cette vision, l'Esprit lui dit, « Voici, trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. » Pierre avait des balises culturelles, religieuses, et Jésus s'apprête à révolutionner ces balises. Et tu vas aller à la maison de Corneille, qui était un centenier italien non juif. Et Pierre va avoir à rendre des comptes plus tard à tous les anciens à Jérusalem pour la direction qu'il a prise. Mais c'est là, dans la maison de Corneille, que les premiers non-juifs se convertissent et qui font en sorte que jusqu'à nous, aujourd'hui, en 2021, des multitudes hors du peuple d'Israël sont venues à lui. Remarquez bien, Jésus révolutionne les balises de son Église, non seulement lorsqu'elle prie, non seulement en les envoyant vers les nations, mais il envoie des personnes dirigées par son esprit vers nous pour l'accomplissement de son œuvre. Nouvelle Vie, entendez aujourd'hui, lève-toi, Nouvelle Vie, sans hésiter, car Dieu dit, c'est moi qui les a envoyés. C'est comme ça que plusieurs des sites des développements de Nouvelle Vie a pris place. C'est comme ça que Nouvelle Vida est née lorsque David et Irma Mazinko étaient envoyés de Dieu vers nous avec un cœur, avec une vision. On s'est mis à œuvrer ensemble et l'établissement de l'Église Nouvelle Vida. C'est comme ça que la chapelle à Montréal est née avec David Poitier et plusieurs autres pasteurs David Poitier qui vient servir avec nous, mais qui dit « J'ai une vision, envoyez vers nous, une vision pour vers Montréal. » On était là au lancement, on est encore là aujourd'hui de voir l'œuvre de Dieu que Dieu fait là-bas. C'est comme ça que l'Église, plusieurs de nos églises, que l'Église de Drummondville, des gens qui voyageaient de Drummondville à Longueuil, envoyés vers nous en disant « Nous avons un rêve, une vision pour une Église Nouvelle Vie qui va prendre place à Drummondville. » Jésus veut révolutionner nos balises. Mais même là, encore après 10 chapitres, ils sont à Jérusalem seulement. Ils vont ouvrir vers les non-juifs, mais ils ne sont pas dans toutes les nations. Ils ne sont pas aux extrémités de la terre. Ils sont seulement à Jérusalem. Et là, on va voir comment Jésus utilise même. Il bâtit son église, il la bénit, il bannit de son église. Il va révolutionner les balises de son église. Mais Jésus utilise les bouleversements extérieurs pour briser les barrières de son église. L'Église est appelée aux nations, mais sont encore seulement à Jérusalem. Et acte 8, 1 à 4. Comprenez le contexte. Ils sont à Jérusalem. Quelle Église! Il y avait une méga, méga Église à Jérusalem. 10 000 personnes, la plus grande banque alimentaire de l'époque qui était là. Vous avez juste à voir acte 6, des milliers qui étaient nourris. Une équipe pastorale, une équipe de prédicateurs, pas mal. Wow! C'est qui prêche dimanche à ton église? C'est l'apôtre Pierre, c'est pasteur Jacques, c'est pasteur Jean avec la mère de Jésus qui donne un témoignage et Lazare qui parle de sa résurrection. Imaginez-vous le nombre d'abonnés YouTube qu'il devait avoir. Imaginez-vous combien de centaines de milliers de vues il devait avoir. Mais ils sont encore seulement méga à Jérusalem. Et Dieu veut que l'église méga devienne une église méta qui se transforme vers le cœur de Dieu afin de devenir un mouvement d'église. Une méga-église devient une méta-église, devient un mouvement d'église et sortir, il avait dit, de Jérusalem, mais la Samarie, la Judée, les extrémités de la terre. Et là, il y a un bouleversement extérieur qui prend place. Acte 8, 1 à 4. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées ou vers la Judée et la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, il faisait jeter en prison. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ceux qui avaient été dispersés bâtir un avion en vol et allèrent en ligne à partir du mois de mars 2020 et se mirent à annoncer la bonne nouvelle de la parole partout. Il y a une vraie force extérieure. Il y a une vraie tragédie qui prend place. Ce qui prend place est hallucinant. Vous avez un homme de bien, Étienne, qui est en fait le responsable de la banque alimentaire et qui est amené par les pharisiens, par les religieux, qui est persécuté, qui est lapidé, qui est mis à mort. L'événement est tragique. Et suite à cela, Saul de Tarse, le persécuteur, ravage l'Église. Ils sont dispersés. Ils sont dispersés, on les arrache de leur maison, ils perdent tout. Ils commencent à se répandre par cette persécution vers la Samarie, vers la Judée et vers ce qui était à l'époque les extrémités de la terre. Qu'est-ce que ce texte, ce passage nous enseigne aujourd'hui? Il nous enseigne que des pires tragédies, Jésus peut et veut faire émerger son Église avec un témoignage. Les actes ne banalisent pas le drame qui a pris place. Le meurtre d'Étienne était abject. Il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des deuils. Nous ne sommes pas de ceux qui banalisons la pandémie que nous avons vécue, que nous vivons encore. Lorsqu'on parle de 4 à 5 millions de morts déclarés, certains disent que ça peut être 5, 10 fois plus, 11 000 morts au Québec. Il y a des larmes, il y a des tragédies, mais entends-le pour ta vie personnelle et entendons-le pour l'Église. Jésus veut utiliser les bouleversements extérieurs pour briser les barrières de son Église. Il les sort de Jérusalem à travers ces événements extérieurs. Les pires tragédies, Jésus peut faire émerger son Église avec un témoignage. La deuxième pensée, que Jésus utilise les bouleversements extérieurs pour l'avancement, briser les barrières de son Église, c'est que les plus cruelles injustices et discriminations contre des chrétiens qui sont innocents. Dans la réalité, Étienne était seulement un homme de bien, seulement un homme qui n'avait rien fait pour mériter ce qui lui arrivait. Mais les plus cruelles injustices et discriminations contre des chrétiens innocents n'arrêteront jamais l'Église de Jésus qui sera indestructible jusqu'à son retour. J'ai eu le privilège d'apporter la parole dans 55 pays du monde où les niveaux de persécution étaient parfois d'une violence extrême. L'Église de Jésus ne sera jamais arrêtée. Le texte nous rappelle que la main des hommes n'est jamais plus grande que la main de Dieu. que les persécutions, que des persécutions meurtrières à une pandémie mondiale, Jésus veut accomplir ses plans par son peuple, par sa puissance. Jésus utilise les bouleversements extérieurs pour briser les barrières pour son Église. Qu'est-ce qui est arrivé avec les dispersés, avec ceux qui ont été dispersés de la méga Église de Jérusalem? Actes 11, 19 à 21. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, de ce drame terrible, allèrent jusqu'en Phénicie, l'île de Chypre et à Antioche. Rappelez-vous de ce nom, c'est l'Église modèle. À Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs et des habitudes et des tendances de se refermer sur nous-mêmes qui sont fortes. Même les persécutés qui se rassemblent à Antioche au début restent avec les Juifs seulement. Mais il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène. Tout ce que ça prend, c'est quelques hommes, quelques femmes au diapason du cœur de Dieu, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux non-juifs, aux grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Jésus utilise même les bouleversements extérieurs pour briser des barrières de Jérusalem maintenant vers la Judée, vers la Samarie, vers les extrémités de la terre. La persécution que l'ennemi désirait pour la destruction de l'Église les a en fait dispersés pour accomplir leur destinée. De la persécution à la pandémie, Dieu est en contrôle. Est-ce que tu réalises à quel point, est-ce que vous réalisez, est-ce que nous réalisons à quel point notre Dieu est puissant? Il est tout puissant. Ce que l'ennemi pense utiliser pour ruiner l'Église, Dieu utilise pour renverser des barrières et faire avancer son royaume de Jérusalem jusqu'à Antioche par la persécution. Le mal est changé en mouvement de multiplication. Satan devient en fait ultimement un pion dans la main de Dieu. Même lorsqu'il pense détruire, il est en train de servir les desseins de Dieu. Wow! Notre Dieu est tellement tout-puissant et souverain que les pires attaques de l'ennemi servent ultimement à l'avancement de ses plans divins. Il persécute, il disperse et la destinée s'accomplit de Jérusalem à Samarie, Judée, extrémité de la terre. Cette semaine, dans mes propres, juste mes dévotions personnelles, je méditais. Je vais le personnaliser un instant. Je méditais sur ce texte de Jacques qui dit, Jacques chapitre 4, verset 7, qui dit « Résistez à l'ennemi. Résistez à l'ennemi. Antithesmi. Opposez la force de Christ en vous à l'ennemi. Résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. » Écoutez bien, cette pensée, elle est importante. Satan peut intimider seulement ceux qui se laissent intimider. Tu lui résistes, il va fuir. Il ne peut pas ceux qui ne le laissent pas. Ne soyez pas une victime facile pour l'ennemi. Il vous intimide et vous fuyez. Non, résistez-lui. Nous lui résistons. C'est ce qu'on a fait. Depuis le début de cette pandémie, nous avons refusé d'être intimidés par l'ennemi. Jésus a utilisé les bouleversements extérieurs, même de cette pandémie, pour briser des barrières de son Église qu'on voit se manifester maintenant de tellement de façons. Des Églises Nouvelle Vie qui sont nées pendant cette année de pandémie. De 10 000 à 82 000 abonnés sur la chaîne YouTube, des barrières qui tombent, de toutes sortes de gens qui ne venaient pas à l'Église, mais qui en ce moment sont percutés par le message de Christ. Il l'a bâti. Même les bouleversements extérieurs peuvent être utilisés pour briser des barrières. Jésus appelle son peuple à saisir, c'est ma dernière pensée, et comprendre que Jésus bâtit son Église, il la bénit, il bannit de son Église les pensées humaines pour être inspiré par sa révélation. Il révolutionne les balises. Il utilise les bouleversements extérieurs pour briser les barrières devant son Église. Et je termine avec ceci. Jésus a besoin de nous pour restaurer la beauté de son Église. La beauté de son Église. Dans Actes 13, 1 à 4, c'est l'Église d'Antioche. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque. Saul, pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, ils s'embarquèrent pour. Dieu se sert des hommes. Jésus a besoin de nous pour restaurer la beauté de son Église. Dans le texte d'Antioche qu'on a lu précédemment, on nous dit qu'il y avait parmi eux des hommes, alors que les autres s'étaient refermés sur eux-mêmes. Il y avait parmi eux des hommes qui sont allés vers les non-juifs. Le Seigneur était avec eux. Ça semble évident, mais dans la culture évangélique actuelle, de passivité, d'apathie et de fuite dans le mythe de « le réveil viendra un jour » ou de l'hyper-souveraineté de Dieu où tout ce qui doit arriver arrivera de toute façon avec nous ou sans nous. Ça a besoin d'être dit à nouveau. La révélation de la réelle beauté de l'Église dépend de la réponse de ceux qui le représentent, de toi et de moi. Vous êtes des épîtres vivants lus par tous les hommes. Vous êtes le corps de Christ sur la terre. Et dans la province de Québec, la beauté de l'Église a été grandement entachée par ceux qui représentaient l'Église chrétienne de manière traditionnelle dans notre nation. La beauté de l'Église selon Jésus. Le modèle Antioche est important. Ce fut pour la première fois à Antioche qu'ils furent appelés chrétiens. L'Église n'est pas belle automatiquement. Elle est belle, nous révèle Antioche, lorsqu'elle est le reflet du cœur de Dieu pour toute la diversité humaine, sans division. Lorsqu'on regarde à l'Église d'Antioche, il y avait une diversité de dons et de différents ministères, multitudes de ministères. Dans un seul verset, on a des pasteurs, on a des prophètes, on a des ministères apostoliques, on a des pionniers, nous avons des missionnaires, nous avons des implanteurs. Il y avait une diversité culturelle et ethnique. Des Juifs, des Grecs, des Africains, Simon le Niger. Pas une Église homogène. Pas une église, tout le monde la même couleur, tout le monde écoute la même musique, tout le monde a la même barbe et les mêmes tatouages, tout le monde a la même doctrine, tout le monde a le même style, chacun en groupe homogène. Non, non, ils vivaient les uns les autres. Le 54 fois qu'on trouve dans le Nouveau Testament, les uns les autres ensemble, pleinement. Une diversité d'âge, pas juste ma gang. Ce n'était pas mono-ethnique, ce n'était pas unidimensionnel ou unigénérationnel, c'était multigénérationnel, multi-ethnique. Comme dans la prophétie, comme dans la promesse à la naissance de l'Église, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Et les jeunes hommes, jeunes femmes vont avoir des visions. Ceux qui sont plus vieux vont encore avoir des rêves. Ils vont servir ensemble. L'Église est belle lorsqu'elle est le reflet du cœur de Dieu. Elle est belle lorsqu'elle est renouvelée dans le pardon et l'amour de Dieu. Il y avait, dans le texte qu'on vient de lire, il y avait dans l'Église d'Antioche différents noms. Mais peut-être que vous avez manqué celui-ci. Il y avait Manaan qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque et Saul. Wow! Pensez-y un instant. Arrêtez un instant. Les persécutés qui ont tout perdu à Jérusalem, qui ramassent les morceaux de leur vie, qui sont dans une église à Antioche, sont assis dans le groupe Nouvelle Vie Maison avec le persécuteur, avec Saul de Tarse. Le niveau de pardon, le niveau de grâce. Dans un autre groupe maison, vous avez des chrétiens qui sont là, assis avec Manaan, qui était l'ami d'enfance de Hérode. Hérode le Tétraque. Hérode, faut-vous imaginer la conversation? T'es ami avec... Tu viens d'où, toi? T'es ami? Quel milieu tu viens? T'es ami avec Hérode? Hérode qui a décapité Jean-Baptiste. Hérode qui a eu 15 enfants de 12 femmes, qui a assassiné deux de ses femmes et un grand nombre de ses beaux-frères. Hérode le fou, c'était ton ami d'enfance. T'es là ici avec nous à l'église, assis à côté avec Saul de Tarse, l'ancien persécuteur. Est-ce que vous comprenez le niveau de pardon, de grâce, le niveau d'amour, le niveau de relâchement du passé, le niveau d'acceptation de l'autre qui était présent. C'est là que l'Église est belle. L'Église, comprenez bien qu'on est appelé à bien plus important que ce que vous pensez, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant ou ce que vous avez conçu. L'Église au 21e siècle est appelée à modeler l'unité, la réconciliation entre les peuples, la tolérance, le respect et la possibilité de pardon, de réconciliation, d'harmonie. multiculturel, malgré les blessures historiques, malgré les méfiances passées, dans un monde, malgré les abus passés, le profilage et les manques de respect, la méfiance ambiante, appelée envers un monde où l'inégalité, l'injustice sociale, le profilage, l'intolérance raciale ou culturelle est explosive et dangereuse. Nous sommes appelés à modeler ce qui peut arriver entre des êtres humains. L'Église, par le Saint-Esprit, comme Antioche, unie dans une capacité de respect, d'unité, d'amour et de pardon comme un modèle que toute la société a besoin. L'Église est belle lorsqu'elle elle restaure la beauté. Elle a besoin de nous, Jésus a besoin de nous pour restaurer la beauté de son Église. Elle est belle lorsqu'elle est le reflet du cœur de Dieu, lorsqu'elle est renouvelée dans le pardon et l'amour. Et encore, encore plus pratique pour nous aujourd'hui, elle est belle lorsqu'elle est prête à relâcher localement pour implanter globalement. L'Église, selon le cœur de Dieu, elle est locale. Elle est locale et elle est globale. Nous avons lu dans notre texte d'Acte 13, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit a dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et peut-être le verset le plus difficile, le plus puissant du Nouveau Testament à certains égards, après avoir prié et jeûné, ils les laissèrent partir. Laissez-les partir. Imaginez-vous, quel dimanche, pensez un instant, imaginez-vous quel dimanche pour le pasteur de l'église d'Antioche. Le pasteur de l'église d'Antioche qui fait partie de ces persécutés qui sont venus, ont rebâti leur vie et il a un staff assez encourageant. Il a un staff assez formidable. Il a dans son équipe pastorale le plus grand enseignant de l'histoire, Paul. Et il a dans son staff pastoral le plus grand encourageur de l'histoire. Joseph, dans les Actes, qu'on appelle Barnabas, ils l'ont surnommé, ils l'ont changé de nom. Il s'appelait Joseph, acte 2. Et il était un homme de moyens. Et il est venu un jour en vendant une de ses terres, une de ses propriétés, ses champs, puis a amené la somme au pied des disciples, puis il a dit, distribuez ça à ceux qui sont plus pauvres. Et croyez-moi, les pasteurs ont dit, waouh, il est vraiment encourageant, lui. C'est très encourageant. On va changer son nom. Tu t'appelles plus Joseph, tu t'appelles Barnabas, le fils de l'encouragement. Mais le Saint-Esprit dit, mettez à part, relâche, pasteur d'Antioche, pasteur de Nouvelle-Vie, relâche, laisse aller, relâche, le Barnabas, relâche, Saul. Tu peux imaginer le pasteur de dire, ça ne tente pas, Seigneur, prends Lucius, prends Simeon, non, relâche ces deux-là, je les ai appelés, tu ne dois pas les retenir, tu dois les soutenir, tu dois les relâcher. L'Église est belle lorsqu'elle est prête à relâcher localement pour implanter globalement. Dans le jeûne, la prière, la foi, parfois, en retenant notre souffle, c'est ce que nous faisons depuis 28 ans à Nouvelle-Vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été formés à Nouvelle-Vie, qui sont relâchés dans toute la province et dans toutes les nations. C'est pour ça que nous avons cette vision maintenant de multisites, où le Saint-Esprit dit, mettez à part David et Irma Mazenko et toute leur équipe pour l'œuvre de l'implantation d'une église hispanophone qui est devenue une des plus grandes églises, sinon la plus grande église hispanophone au Canada. Et ce n'est que le commencement. Mettez à part Ben, pasteur Ben et Sophie Lutten pour Nouvelle Vie, La Prairie, avec la bénédiction qui est sur ce couple, les dons que Dieu leur a donnés pour le développement de cette église qui est en croissance. Mettez à part Florian et Julie Rollin pour l'œuvre à laquelle je les appelle à Châteauguay. Mettez à part, relâchez, laissez partir, équipez, formez, développez, aidez, pourvoyez, partagez les ressources, on ne garde pas tout à Longueuil, relâchez. Mettez à part David Élison et des centaines d'autres pour l'œuvre de Nouvelle Vie à Drummondville. Mettez à part André, Céline, Julien et Élise pour l'œuvre de Nouvelle Vie à Charlevoix. Et dans cette prochaine décennie, Dieu va dire, mettez à part des hommes, des femmes, toi peut-être, pour répondre à son appel, pour aller implanter son Église. Et l'Église est belle, je termine, non seulement lorsqu'elle est le reflet du cœur de Dieu, elle est renouvelée dans le pardon et l'amour de Dieu, prête à relâcher localement pour implanter globalement, mais elle est belle lorsqu'elle répond, lorsque chacun répond et chacun servait le Seigneur dans leur ministère. Est-ce que tu sers le Seigneur dans ton ministère? Est-ce que tu as perdu ton ministère, relâché ton ministère, laissé ton ministère, je comprends, pendant la période de pandémie, mais est-ce que tu reviens à ton ministère? Est-ce que tu es prêt à redécouvrir ton ministère? Vous savez le mot « bénévolat » du latin benevolus. Bene veut dire bien. Et volo, je veux. Je veux le bien. Je veux le bien de d'autres. Je veux le bien par le royaume, du royaume de Dieu. Je veux faire le bien. Je veux servir dans mon ministère. Je veux prendre ma place dans l'Église selon Jésus. Je vais terminer avec un courriel que j'ai reçu cette semaine ou la semaine dernière. Il y a des centaines et centaines de personnes, peut-être un millier de bénévoles, mais des centaines et centaines de personnes à Nouvelle Vie sur tous nos sites qui servent passionnément. En cette semaine du 28e, il y a aussi des gens qui servent non seulement passionnément, bénévolement, qui veulent faire le bien depuis des années, des décennies. Un de ceux-là, Daniel Vachon, ici localement à Longueuil, est un pilier de notre Église. Lui, son épouse Angèle, des piliers des Nouvelles Vies, des serviteurs, des Barnabas, des personnes de service d'encouragement. Et lui m'a écrit un courriel, et avec la permission des personnes concernées, est extrêmement ému de lire ce courriel. Il m'a écrit: Pasteur Claude, je ne peux pas passer sous silence l'histoire de Diane et de Daniel Lucier, qui est un couple de notre Église à Longueuil, qui sont impliqués dans le ministère comme placeurs depuis de nombreuses années. Dimanche matin, le 1er août, tout récemment, comme à l'habitude, Diane et Daniel se sont présentés fidèles à leur poste comme placeurs, comme si rien n'avait changé dans leur vie au cours des 12 derniers mois, tout souriant et accueillant les membres de l'Église Nouvelle Vie, et même aidant une dame âgée qui se déplaçait difficilement en mobilité réduite, Daniel écrit: « Pourtant, il y a eu un grand changement dans leur vie. Diane étant diagnostiquée SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Diane a avec elle une petite carte plastifiée maintenant, alerte médicale, expliquant sa condition parce qu'elle a maintenant de la difficulté à s'exprimer, mais elle vient pour servir à l'Église. Comme on sait fort bien, dit Daniel, nos gestes parlent beaucoup plus fort que nos paroles. En regardant Diane et Daniel servir les autres, les mots suivants me revenaient. Résilience, courage, persévérance et surtout, ce sont des serviteurs de Dieu. D'Antioche à aujourd'hui, ils accomplissaient leur ministère. Nous avons été créés, sauvés pour le servir, dit Daniel Vachon, et nous sommes appelés et dotés de talents pour le servir. Et il s'adresse à eux, et moi aussi, je me joins à Daniel. Et vous, Diane, Daniel, vous le démontrez par vos actions et vos gestes quotidiens. Vous nous sensibilisez à bien comprendre la récompense et la responsabilité de notre appel et prendre conscience que nous lui devons tout. Daniel Vachon termine avec ce verset, Matthieu 20, 25 et 27. Jésus les appela et leur dit: « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands tiennent les gens par leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. » Diane et Daniel Lucier veulent continuer de servir dans leur ministère de placeur malgré les conditions de santé actuelles. Merci Seigneur pour ce couple extraordinaire et que la paix de Dieu soit avec eux et que leur cœur de serviteur nous inspire, chacun d'entre nous. Nous prions, nous nous tenons avec Diane, avec Daniel, à travers cette saison, et nous prions pour une touche, pour une intervention de Dieu. Mais nous sommes inspirés et appelés par leur vie aujourd'hui. Et nous prions ensemble. Seigneur, amène-nous à être l'Église selon Jésus, selon toi, Seigneur. Viens redéfinir, viens renverser les balises, les barrières dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, viens révolutionner nos balises. Seigneur, on ne veut pas, nous ne pouvons pas être seulement en adoration à tes pieds. Comme maître, nous sommes appelés par ta puissance à toucher, à aller atteindre ce monde. Non seulement à Jérusalem, Longueuil, mais Seigneur, partout dans la province de Québec et jusqu'aux extrémités de cette nation et partout aux quatre coins du Québec. Nous voulons être Antioche. Nous voulons être baptisés à nouveau, renouvelés à nouveau dans un amour, dans un niveau d'amour, d'unité, de pardon, de grâce qui deviendra une odeur, un modèle, un aimant pour une nation qui est divisée comme jamais. Et nous te demandons, Seigneur, remplis nos cœurs de foi au diapason du tien et je prie pour chaque personne qui entend le son de ma voix, qu'il puisse entendre ta voix à toi qui dit: viens maintenant, je veux te mettre à part, je t'ai équipé, je t'ai outillé, je t'ai donné toutes sortes de dons afin que tu puisses venir servir maintenant, accomplir ton ministère, afin que nous puissions prier, afin que nous puissions être ton corps sur terre, Seigneur Jésus, et que nous puissions restaurer une personne à la fois, une ville à la fois, la beauté de ton Église. Que des témoignages comme celui de Daniel et de Diane viennent nous percuter, nous réveiller, nous inspirer, alors qu'ils nous tracent le chemin. Nous marchons, Seigneur, avec eux. Nous marchons devant toi et nous te disons, Seigneur Jésus, viens bâtir ton Église, une Église selon ton cœur, et que je puisse trouver ma part dans cette Église, mon service, mon ministère, au nom de Jésus. Et tout le monde dit amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, alors que l'équipe d'adoration chante la grandeur de Dieu. Allez, répondez à l'appel de Dieu et bâtissons son Église ensemble.